normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Eh bien, nous allons en parler ce matin, largement, longuement, pendant certainement une bonne demi-heure. Madame Edith Broubleu est avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, je vais bien et toi, Gégé, bonjour à tous.
Ça va super bien.
Bonjour Edith.
Ça va super bien. En tout cas, tu illumines par ta présence. Ce que je peux vous garantir, très chère Edith Broubleu, c'est que ça n'a rien de rhétorique.
Oui, en tout cas, je te taquine.
C'est spontané, tu vois. Voilà.
Je te taquine. Je prends le compliment.
Voilà. Et il y a deux jaloux en même temps en retour. Je sais pas trop.
On avait de la lumière bien avant.
Non, tu sais, moi, je fais un accélérateur de particules.
Bon, voilà.
Il est gentil, c'est quelqu'un que je connais aussi, qui a déjà passé chez moi.
En tout cas,
pourquoi je le croise pas alors?
Comment tu fais?
Il est gentil, mais il passe pas là où il doit donner.
Voilà, c'est moi qui gère, je suis la manager.
Attention, la
première personne demander d'abord une audience à sa manager.
Moi, je savais pas que c'était un homme battu.
Non, pas du tout. Je suis très gentil.
Allez, on va attaquer, très chère Edith, bien évidemment, ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 mars 2023, comme il est de coutume, en tout cas à cette période-là. Chaque année, il est mis en valeur les femmes d'une manière comme d'une autre, et aujourd'hui sont mis en valeur les droits des femmes. Déjà pour cette énième journée, qu'en pense Edith Broubleu ce matin?
Merci déjà de m'accueillir. C'est vrai que je joue à domicile, mais c'est toujours important de pouvoir partager son point de vue. Et cette journée qui est instituée depuis plusieurs années et qui est célébrée aussi en Côte d'Ivoire est notamment l'occasion pour les femmes et aussi les organisations féminines de faire le point des acquis en matière de droits des femmes, de se rappeler que il y a encore une quarantaine d'années dans certains pays certaines femmes n'avaient pas le droit de conduire. Certaines femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque et que donc l'acquisition de certains privilèges, de certains droits, même pas privilèges mais de certains droits, est tout récent pour les femmes. Et qu'il y a encore du travail à faire au niveau des mentalités. Parce qu'on parle de parité, on parle d'égalité, et qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que cette parité soit effective dans tous les pans de notre société. C'est une journée. Comme je le disais en off, c'est vrai qu'on célèbre cette journée comme on célèbre la journée mondiale de l'enfance. Et si encore on se retrouve encore à fêter une journée internationale des droits des femmes, c'est qu'on a encore, on n'a pas encore réussi en fait. C'est qu'on n'a pas, on n'a pas encore réussi.
Ce que vous exprimez là, je vais essayer en fait de résumer, c'est que la célébration, sinon la mise en valeur des droits de la femme lors de cette journée là, n'a pas d'impact réel, n'a pas une influence justement dans.
Pas qu'elle n'a pas d'impact réel, mais je considère encore que si on la célèbre, c'est que on n'a pas atteint notre objectif en fait, parce que être célébré au même titre que la Journée internationale des droits des enfants. C'est qu'on a encore cette sous-catégorie de la population, parce qu'il n'y a pas de la journée internationale de l'homme.
Mais est-ce qu'en même temps, il y a un aspect de célébration dans cette journée-là? Ça n'est pas plutôt, en tout cas, une mise en relief, mise en lumière?
En fait, ce que je veux dire, je ne suis pas contre cette journée, mais je mets juste en perspective pour dire, ok, on la célèbre toujours, mais on doit se rappeler que si on a une journée internationale des droits des femmes, et qu'on a une journée internationale des droits des enfants ou de l'enfance, c'est qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire, en fait. Parce que le jour où on ne fêtera plus la journée internationale des droits des femmes, c'est qu'on aura effectivement acquis cette parité, ces droits.
Ok, parfait. En même temps, c'est vrai que là, nous avons globalisé la chose. On va essayer maintenant de la particulariser, de la singulariser, bien évidemment, en la mettant à la réalité de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la femme ivoirienne dans la société est valorisée, elle a sa place, est-ce que vous l'estimez ce matin?
Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits déjà au niveau des lois. Si on prend la loi sur le travail également, c'est vrai qu'il y a encore quand même quelques petits efforts à faire, surtout pour les femmes enceintes où on parle même de menstruation. Mm-hmm. Parce que quand on parle de menstruation, vous avez des femmes qui souffrent énormément chaque mois et qui sont dans l'incapacité d'aller au travail, par exemple. Et c'est ça, l'environnement du travail, le droit du travail ne prend pas cela en compte. Pour l'instant, dans certains pays, c'est le cas, il y a des congés menstruels. Mm-hmm. Et je pense que ça sera certainement la prochaine étape.
Plus en Europe, me semble-t-il.
En Europe, surtout en Europe. Et je pense que certainement, dans quelques années, ça sera la prochaine étape. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la loi sur le travail. Également sur sur le mariage, par exemple, où l'homme et la femme sont à égalité.
Tous deux désormais chefs de famille.
Exactement, ils sont tous les deux chefs de famille. Le viol également est désormais reconnu comme un crime dans le code pénal ivoirien. Et dans la société même en général, on donne beaucoup plus de place à la femme, que ce soit dans les médias, que ce soit...
Aujourd'hui, on parle encore beaucoup plus du genre. Aujourd'hui,
oui, on parle...
Il ne se fait pas quelque chose, il n'y a pas, comment dire, une activité sans qu'on ne parle de genre.
Bien sûr, on parle surtout d'inclusion, c'est-à-dire que dans les entreprises maintenant veillent à ce qu'elles puissent atteindre une certaine... pas forcément la parité, parce que c'est pas encore le cas, mais atteindre un certain quota en termes de représentation féminine, que ce soit dans le secteur du BTP, que ce soit dans le secteur des industries, de la communication, des services et autres. Les entreprises ont compris. Et même au niveau politique, c'est vrai qu'on a cette loi qui impose aux partis politiques d'avoir
30%
de candidatures féminines. Même si c'est pas respecté pour l'instant, mais il y a quand même des efforts, des mécanismes qui sont mis en place pour que la femme ait beaucoup plus de place, ait beaucoup plus d'impact et surtout ait beaucoup plus de visibilité. Et les femmes elles-mêmes se l'approprient aussi de plus en plus, sont moins timides, elles sont moins réservées. Et elles essaient de prendre aussi leur place autour de la table.
Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, nous remarquons que dans la société, les choses ont bougé. On ne regarde plus une femme parce que c'est une femme, mais on la regarde parce que c'est un être humain doté à égalité de capacité d'intelligence.
Exactement.
En tout cas, c'est ce que nous remarquons, bien évidemment, aujourd'hui dans la société. Ce qui justifie aussi le fait, Edine Broubleu, que nous vous ayons invité ce matin, c'est que le thème nous a interpellé à plus d'un point. Nous savons que vous êtes aussi, bien évidemment, dans ce domaine, en plus d'être chroniqueuse TV. On parle d'innovation technologique et digitale, ça c'est le thème précis de la Côte d'Ivoire. Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Voilà le thème qu'a choisi l'État de Côte d'Ivoire via le ministère qui s'occupe de ce qui est femmes, enfants et familles. Quel est le regard que vous posez justement sur ces thèmes-là, quand on parle d'innovation technologique et digitale, et puis de levier d'inclusion sociale?
Je trouve que c'est un choix pertinent. J'ai même été surprise quand j'ai découvert le thème. Je me suis dit, ah ok, d'accord, on y arrive. Et ça tombe à point nommé parce que depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'initiatives.
C'est ça.
De formation, de coaching, pour amener les femmes à s'autonomiser grâce au digital, grâce aux outils numériques, que sont Internet, que sont les formations en code informatique, que sont les réseaux sociaux et tout ça. Et il y a énormément d'initiatives, donc depuis une dizaine d'années, depuis une vingtaine d'années, qui ont été mises en place et par des hommes et par des femmes, pour permettre aux jeunes filles et aux femmes soit de pouvoir se reconvertir dans des métiers dits du numérique, du digital, ou bien soit d'avoir ces compétences-là, ces nouvelles compétences numériques pour pouvoir booster leur activité, booster leur business ou bien booster leur carrière professionnelle. Donc je prends notamment, on va dire, l'une des plus anciennes aussi, chez The Code, mm-hmm. Qui est une formation qui existe depuis voilà, une dizaine d'années, qui a mm-hmm. été mise en place par Jean-Patrick Aumont.
Ok.
Fondateur de, président de Akendewa. Et donc, cette formation qui permet à des centaines de femmes qui, pour la plupart, ont soit un métier déjà, mm-hmm. et qui décident de faire une reconversion. Ou qui décident d'obtenir, de vouloir obtenir de nouvelles compétences grâce au numérique. Et donc, pendant 6 mois, ces femmes-là suivent des formations et il en a formé des milliers. Que je rencontre régulièrement, qui m'expliquent un peu l'impact de ces formations mmh. dans leur quotidien, parce que ces formations leur ont permis soit de développer leur business, de tripler leur chiffre d'affaires, ou bien de pouvoir travailler dans des entreprises grâce à ces nouvelles compétences en code informatique, en cybersécurité, en social media management, donc gestion des réseaux sociaux, mmh. ce genre de choses en fait, et de pouvoir avoir une autre carrière beaucoup plus palpitante et intéressante. Mmh. Et en plus de cette formation, il y a l'ONG Dynex Africa, Dynamique et Excellente d'Afrique, mmh. de la jeune sœur Maïmouna Koné, qui forme les jeunes filles de 10 à 16 ans, donc des lycées et collèges. Bon, elle a commencé par la commune d'Abobo depuis 2 ans, 3 ans.
Tout à fait.
Le lycée moderne d'Abobo, parce qu'elle voulait se concentrer sur les quartiers dits défavorisés, les jeunes filles de ces quartiers défavorisés qui ne peuvent pas rêver de s'imaginer autre que dans cet environnement et de pouvoir rêver un jour peut-être travailler pour des entreprises technologiques comme Oralc, peut-être Orange, ce genre de choses, mmh. et de les projeter dans cet univers. Donc, de 10 à 16 ans, elles sont en classe de 6e jusqu'à la terminale et elles apprennent chaque mercredi. Grâce à des bénévoles mmh. de cette organisation, elles apprennent le code informatique, le pilotage de drones, elles apprennent à monter des drones, apprennent l'électromécanique, elles apprennent également, en plus de l'électromécanique, la robotique. Grâce à cette ONG qui existe depuis au moins 3 ans, mmh. elles ont la Côte d'Ivoire a gagné le prix, elles ont gagné le prix de robotique.
Okay.
Le premier prix de robotique. De la Côte d'Ivoire qui a été organisée par l'ambassade des États-Unis par exemple, et c'était juste à leur démarrage en fait. Donc ça prouve qu'il y a du potentiel. C'est des jeunes filles, lorsque vous les rencontrez, vous sentez en fait que elles sont plongées dans un univers qu'elles n'auraient pas pu imaginer ailleurs que grâce à cette formation. Donc au début, elles demandaient l'autorisation pour pouvoir utiliser une salle de la mairie d'Abobo. Mmh. Et au fur et à mesure, la relation de confiance est mise en place.
S'installant.
La mairie là, a donné un peu plus de place. Elles ont un pool de marraines dont je fais partie qui les coachent, qui les soutiennent. Et en plus de ça, au fil en aiguille, en évoluant, aujourd'hui, elles ont un local, un siège à Abobo Baoulé qui est très bien équipé, qui est accompagné par différentes organisations où ce projet-là va permettre à d'autres filles des lycées et collèges de pouvoir se former. Donc, il y a vraiment énormément de projets, même Digifam également, énormément de d'ONG, d'actions de ce type qui permettent aux femmes ivoiriennes de pouvoir s'autonomiser, de pouvoir avoir de nouvelles compétences grâce au numérique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on manque de ces compétences, c'est comme si on était des analphabètes numériques.
Tout simplement.
Donc, c'est important.
Voilà ce qu'on va retenir pour l'instant. On va marquer juste une petite pause et puis derrière, nous allons continuer notre entretien justement avec Armel Mendy, Monsieur Le Perpignan certainement, qui auront aussi de préoccupations pour notre invité.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Et nous en parlons ce matin, très clairement. Edith Broubleu est notre invitée. Vous le savez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme qui est célébrée. Et là, nous parlons maintenant spécifiquement de digital et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous avez donné tout à l'heure des cas pratiques, des cas qui sont intéressants à voir, comme celui d'Abobo, par exemple, ces jeunes filles qui s'autonomisent via le digital. Est-ce que les femmes, globalement, ont accès au digital, à Internet déjà, disons ça, tout simplement comme ça ?
Oui, l'inclusion féminine au niveau du numérique s'est beaucoup améliorée aussi ces 10 dernières années. Mmh. En même temps que l'accès à Internet, hein, globalement. Donc, on a un taux de pénétration de près de 56% d'Internet en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une vraie évolution en termes même de possession de puces mobiles. On est à près de plus de 100% de possession de puces mobiles. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'un individu en moyenne a deux puces possède deux puces. Et au niveau même de l'accès à Internet, on a près de 10 millions d'utilisateurs mobiles Internet en Côte d'Ivoire. Donc, ça suit également les chiffres. Mmh. Les femmes sont de plus en plus, beaucoup plus connectées. Il y avait un chiffre, c'est vrai que ce chiffre date un peu, ils n'ont pas mis à jour, mmh. mais dans les métiers du digital, la représentation des femmes, il y a 5 ou 6 ans, était de 35%. Mmh. Donc, on est quand même face à une représentativité qui est importante. Et les
c'est Internet aussi beaucoup, féminin. Beaucoup pourvoyeur oui. d'emploi.
Oui, beaucoup pourvoyeur d'emploi. Internet est féminin. Mmh. Globalement, dans le monde, Internet est féminin. Mmh. Si vous regardez, c'est vrai que les métiers beaucoup plus connus comme le social media management, community management, web design, ce genre de choses. Il y a beaucoup plus de femmes dans ces métiers. On le constate aussi de plus en plus. Ici. Donc, les femmes utilisent Internet, que ce soit dans le monde rural ou dans le monde urbain, les femmes utilisent beaucoup plus Internet, donc les réseaux sociaux, pour faire du business.
Intéressant.
Pour faire du business, pour se connecter à leurs proches, mais surtout pour faire du business.
Du TikTok, oui.
Ça, c'est
moi,
intéressant.
J'ai dit, quand tu fais TikTok, tu prends, on voit que des femmes dessus. Même. Elles sont là, en train de faire TikTok, Facebook. Elles se sont accaparées de ce truc-là. D'accord. Donc, quand on me dit qu'elles cherchent de la place, elles sont déjà là-bas. Il y a plus de femmes qui ne font que ça. Et on a connu beaucoup d'influenceuses grâce à Internet. Mmh. Donc, moi, je dis, ça sert à rien d'en parler. Les femmes ont déjà le numérique. Qu'elles gardent. Voilà, nous on va aller sur le chantier. Ne nous trouvez pas sur le chantier, s'il vous plaît.
Non, on est déjà sur les chantiers en fait.
J'ai mis en lumière
beaucoup de jeunes femmes qui travaillent sur les chantiers, comme vous voyez, le 4e pont, également le 5e pont et tout, qui travaillent sur ces chantiers. Et qui sont très jeunes, mais qui ont des postes de responsabilité parce qu'elles ont une formation d'ingénieur.
C'est ça.
Et on les voit de plus en plus la main dans la pâte, en train. Priscie, elle a été maçon.
Elle est devenue humoriste.
On ne fait pas à moitié l'affaire. On aime tester aussi. On aime toucher à tout. On aime tester et tout.
Oui, mais ça fait le mariage. Et nous, les hommes, on n'aime pas trop.
Voilà, les bébés, les gros bébés gâtés.
Tout ça, c'est l'inclusion, en tout cas. Et forcément, ça fait plaisir. Armel m'a dit.
Ça fait plaisir. On constate également l'émergence d'une certaine élite au niveau des femmes et le digital également. Il y a beaucoup de femmes qui s'approprient aujourd'hui pour lancer leur propre business. Mais est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille? Parce qu'on parle plus d'autonomisation, de liberté de la femme. Mais quand on regarde également sur le digital avec l'émergence également d'une autre catégorie de jeunes filles qui mettent plus en avant peut-être l'aspect physique, est-ce que cela ne vient pas saper toute la lutte?
Comment saper toute la lutte? Je va un peu plus loin dans tes propos.
Va,
je
prends
la lumière. Je prends la lumière vite de soi.
Dis-nous. On leur donne du pain, mais là, ils sont en train de manger tout le beurre.
Quand je regarde sur Internet aujourd'hui, on vient de voir un dernier scandale avec Lolo Beauté. Quand je vois cette jeune dame, je me dis. À côté de ce que vous faites, qui est de
norme. En fait, c'est l'utilisation, tout simplement.
C'est
l'utilisation à bon ou à mauvais escient.
Là, on parle de dépravation. Voilà. Quand on parle de dépravation, je veux dire inciter des jeunes filles à des comportements indécents. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas uniquement.
J'ai l'impression que vous faites une lutte, vous tirez les femmes vers le haut. Et de l'autre côté, il y a un autre club
Il y a toujours, forcément, la femme, il y a un bon gré, il y a une vraie. L'utilisation des réseaux sociaux est censée ne pas mettre à mal surtout le développement des plus jeunes. Donc quand on parle de... Parce que Internet, les réseaux sociaux comme Facebook, ça partit de 13 ans.
C'est ça.
Ça démarre à partir de 13 ans. Donc la limite, elle est très basse déjà. Et donc...
Il y a une loi qui existe justement
protéger,
par rapport à cela.
Ouais. Pour protéger les mineurs, les protéger contre le cyberharcèlement et tout ça. Donc... Il y a des plateformes pour pouvoir se dénuder. On connaît ces plateformes.
Bien sûr.
Et tout. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a un peu d'excès. Non, pas d'excès, je veux dire, montrer ses parties génitales sur une plateforme de réseau social. Ça n'a rien de valorisant. Ça n'a rien de valorisant. Et ce n'est pas l'endroit. On peut le faire ailleurs. Si c'est pour faire de l'exhibition de ses parties génitales, on peut le faire ailleurs sur des plateformes appropriées, mais sur des plateformes où il y a des enfants, ce n'est pas l'endroit où il faut le faire, en fait. Voilà. Mais pour revenir à ce que tu dis, la femme, elle est maître de son corps, maîtresse de son corps. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. De toute façon, c'est son corps à elle.
Mais est-ce que c'est, pas aussi, c'est pas aussi quelque part politique, dites brou bleu, que de
quand
dire
tu dis
ça
politique.
Politiquement correct, oui. Elle a le droit de disposer de son corps,
oui,
etc.
Je
disposer
de mon corps. Je fais des enfants. C'est mon corps. Est-ce que moi, j'ai le droit de disposer de ton corps?
Non.
Si vous êtes marié,
c'est le mien.
Ouais. Oui, c'est mon corps. Je suis un être humain, je suis un individu. Mm-hmm. Je ne suis pas limité à mon sexe.
Dans ce sens, je suis d'accord. Ouais. Mais tout à l'heure, vous le mentionniez, quelqu'un qui va faire de l'exhibition sur les réseaux sociaux.
Pareil, si toi, tu t'exhibes en short, en caleçon sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui se sont exhibés en caleçon sur les réseaux sociaux.
Oui.
Je ne vais pas citer des noms des artistes.
Ça n'est pas normal, d'ailleurs.
Ce n'est pas normal, c'est pareil, c'est au même titre, en fait. Mm. On est d'accord, on est tout à fait d'accord.
OK.
Voilà. Bon, OK, si je suis en maillot de bain et que tu prends des photos sur ton tu mets des photos de toi à la plage en maillot de bain ou à la piscine, bon, ça c'est un autre cadre. Donc tu prends la même femme qui est en maillot de bain, qui est à la piscine, qui est avec toi, et vous prenez une photo pour dire oui, Dolce Vita, et voilà. Il y a beaucoup de nuances, bien sûr.
C'est justement pour ça que j'insistais,
protéger les enfants,
voilà, pour lever
ça
un certain nombre d'équivoques,
parce que si le but de ce qu'on fait en termes de d'exhibition, c'est pour comment je peux dire, attirer le regard, chercher à monnayer cette activité, là il y a problème. Voilà. Y a des plateformes pour ça, ils sont dédiées à ça, vous allez, faites ce que vous voulez là-bas.
Donc qu'est-ce qu'on fait là-bas?
Si je prends
dans le sens de Médicani, pas de river de médailles, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le digital, les femmes sont dedans, on est content que les femmes soient là. Mais en même temps, l'État, lui, derrière, nous sort des statistiques en disant qu'il y a baisse des fécondités en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'est pas trop occupé par les réseaux? Les femmes ne sont pas trop occupées dans le boulot que, bon, voilà, avant les hommes partaient et revenaient. Voilà, mais maintenant
les femmes sont plus lettrées. Les femmes sont plus cultivées. Mm-hmm. Les femmes prennent le temps de s'informer. Elles vont plus loin à l'école, la plupart. Et surtout, grâce à l'instant Internet, donc on parle de digitalisation, même celle qui n'est pas allée loin à l'école, elle rattrape ce retard en se formant.
Tout à fait.
Donc elle se rend compte que ma fonction première, ce n'est pas juste de pondre des enfants.
Mm-hmm. On ne pond pas, madame.
Ma fonction première, ce n'est pas de pondre des enfants. Je suis un individu. Je suis un individu au même titre que toi, de Perpignan, et au même titre que toi, je suis capable de réfléchir, je suis capable de produire des services, des revenus, des produits, je suis capable de produire, d'être avoir une part dans le PIB, parce que les femmes apportent énormément dans le PIB.
Et c'est le genre de femme qu'on aime, bien sûr.
Exactement.
C'est le genre de femme.
Vous ne comprenez pas ma question, madame?
Donc, la fonction première de la femme, ce n'est pas... Vraiment, je vais choquer, mais ce n'est pas la reproduction. Cette baisse de fécondité aussi a beaucoup de facteurs. C'est pas uniquement nos pays africains, mais c'est mondial. On parle d'éducation, les femmes sont beaucoup plus éduquées. Parce que quand tu es éduquée, tu as envie de prendre, tu gagnes de l'argent, tu as envie de profiter de toi. Tu as envie de profiter de tes amis, ta famille. Un enfant, c'est une charge.
On est d'accord.
C'est du travail, un enfant.
Faut perpétuer la race.
Non, on ne prend pas juste des enfants pour que ce soit des autres qui s'en occupent.
C'est clair.
La vie coûte cher, il y a l'inflation. Et de plus en plus, c'est vrai que la démographie est galopante. On est sur un territoire qui a été défini certainement pour un nombre bien précis de personnes. Vous imaginez dans un pays comme le Japon, qui est une toute petite péninsule, une toute petite île, mais ils sont trois fois plus nombreux que ce qu'ils devraient. Et donc, ils vivent dans des petits mètres carrés. Ils se marchent les uns sur les autres.
C'est un planning familial assez coercitif.
Voilà, coercitif, parce qu'ils ont été dépassés par cette démographie.
Tout comme en Chine, d'ailleurs.
Et nous, on a encore le temps, en fait. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'enfants. Pas du tout. Mais on fait des enfants, déjà, parce qu'on est en couple ou bien parce qu'on a envie de, d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, d'avoir une pérennité, d'avoir une tout descendance.
Tout à fait.
Mais on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Et le, les femmes ne sont pas des enfants pour faire des enfants maintenant. Elles vont à l'école, elles étudient, elles font des, elles font des loisirs, elles ont envie de profiter d'elles-mêmes. Donc, les hommes, vous voulez... Je pense que c'est surtout politique.
Les hommes n'ont pas été mentionnés depuis qu'on a commencé l'entretien. Là, maintenant, ils sont mentionnés.
Oui, c'est, oui la femme fait des enfants. Madame,
c'est pas ça le problème. Le problème, quand on parle de baisse de fécondité, on ne parle pas que de la femme. La femme n'est plus disponible, l'homme n'est plus disponible. Parce que les jeunes gens aujourd'hui sont plus dans le boulot, les loisirs. Ils n'ont même plus le temps de faire l'amour.
N'oublie pas, en plus de facteurs d'éducation, d'ouverture d'esprit, il y a aussi un facteur médical, santé.
Tout à fait.
Parce que il y a 20 ans, 30 ans, on ne se nourrissait pas de pesticides.
C'est clair.
Tout ce qu'on mange, on mange des pesticides.
Tout à fait.
On voit un nombre croissant de cancers, que ce soit le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer des ovaires. La fécondité baisse, ce n'est pas uniquement les femmes, mais c'est aussi les hommes.
Oui.
Le nombre de spermatozoïdes qui baisse et tout, et tout, et tout. Je veux dire, c'est une charge partagée. Mmh. Et c'est un phénomène qui n'est pas uniquement lié à l'éducation, à des femmes qui s'améliorent, mais qui aussi touche le secteur de la santé. Parce qu'on peut faire, il y a des couples qui essaient de faire des enfants. Moi, je connais plein de couples.
Mais ça ne marche pas pour
qui essaient de faire des enfants, qui ont des difficultés pour faire des enfants et qui sont obligés de passer par des fécondations, des FIV, fécondations in vitro.
Tout à fait.
Pour y arriver, et c'est quand même difficile. Je pense que d'ici dans 10 ans, 20 ans, ça sera encore pire parce qu'on y on consomme que des pesticides. Donc il y a ça. Mais les femmes aussi veulent
être là.
Parce qu'encore, on fait passer des enfants chaque fois. Vous imaginez ? On fait passer un enfant chaque année dans votre corps. On le fait sortir de votre corps.
Oui.
Non, mais
je le fais tous les jours. Moi, je le fais sortir de
votre corps. À quoi vous allez ressembler ? Comment vous allez tenir ?
Il y a le planning. Il y a le planning.
Il y a le planning. Il y a les enfants pour lesquels c'est pas le planning. Ok, bon, elle a fini d'accoucher.
Ouais, faut casser. Bon,
c'est pas comme ça. Mais en tout cas, on peut, Edith Broubleu, vous écouter religieusement, tellement il y a de la matière, tellement il y a de quoi à dire.
Merci,
mais fort malheureusement, nous sommes tenus...
Je vois des perpillons.
Je trouve que des perpillons...
J'adore parler de perpillons. Oui. J'adore les perpillons.
Non, voilà, fort malheureusement, on est tenu à
être... Je te sens un peu emporté.
C'est un féministe, en fait. Non, c'est un féministe.
Moi, j'aime bien les femmes.
C'est un féministe.
Comment je peux dire ? C'est-à-dire que mon regard... vis-à-vis de la femme, du féminisme, c'est vrai qu'il a évolué depuis quelques temps. Je crois que les femmes qu'on a envie d'avoir en face de nous, c'est des femmes qui sont intellectuelles, avec lesquelles on puisse tenir une conversation, discuter tranquillement. Oui. C'est ce genre de femmes dont on a besoin. On ne veut plus...
L'argent.
Tu es assis au restaurant, voilà. Tu invites une jeune dame et puis vous n'avez rien à vous dire. Mais... Tu lui parles un peu de sujets qui t'intéressent. Peut-être... Là,
si tu parles politique, même zéro.
Tu vois,
Même la cuisine, même zéro, hein, tu vois, tu
dans les
fêtes pour on ne peut au courant de rien. Et Mendy, tu l'as dit matin, on dit la femme doit être autonome, on nous demande de payer des pailles pour le 8 mars, on se
mais
demande.
Mais ça, par exemple, je suis tellement contre ça.
On va terminer par
voilà,
là.
Je veux dire ça. Ok, on peut se faire plaisir parce que c'est culturel. Hein. On fait des pagnes pour des hommes politiques.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est pas nouveau.
C'est ça.
On fait des pagnes pour célébrer des présidents. Donc, autant les hommes et les femmes se ruent sur les pagnes de leurs leaders politiques.
Oui, oui.
Donc, c'est forcément une suite logique d'avoir cette culture de porter des pagnes, une célébration. Mais ça ne devrait pas être réduit à ça. Il y a tellement d'enjeux. Il y a tellement de combats encore. Qui doivent être menées. On parle de pénalisation du viol qui est défini maintenant comme un crime.
Tout à fait.
De la violence conjugale également qui est pénalisée. On permet aux femmes, lorsqu'elles sont violentées dans leur foyer, de pouvoir maintenant quitter le foyer. Ça n'a pas d'incidence au niveau juridique. Au contraire, elles sont de plus en plus protégées. Donc on parle de ces acquis-là, c'est ça qui devrait être mis en lumière.
Parfait, on va terminer par là. Je vois que vous avez, un livre là.
Ah oui, on l'a reçu hier pendant le grand talk.
Sur le général, on a reçu le monsieur aussi.
On avait reçu Traoré Moussa, ancien président de l'UNJCI, qui a écrit un livre sur le général de Abdoulaye Coulibaly, donc qui est le PCA de Côte d'Ivoire, et qui a été le pilote
du Faux Boigny.
Président au Faux Boigny.
Il nous avait justement à ce sujet raconté une anecdote des plus croustillantes.
Oui. Bon,
enfin, bref.
Il en a raconté aussi hier. Intéressant.
Allez, on va terminer. Merci beaucoup, Edith Broubleu, d'être passé
par
chez
nous.
Voilà. En tout cas, c'était parfait.
Merci. Voilà, merci. Voilà. J'apprécie. Hein.
Voilà.
Je suis là quand vous voulez.
Hein. Il n'y a pas de
souci. À 20h, amis.
Allez, on se retrouve demain, les amis. On a largement terminé le temps qui nous était imparti. Mais vous savez, quand Edith Broubleu, quand elle parle, c'est juste intéressant. Tu vois, donc on se laisse aller. Voilà.
Vous pouvez mettre même des verres et tout ça. Moi, des verres de jus d'orange.
Voilà. Merci Armel Mendy, merci Monsieur Le Perpignan, merci Edith d'avoir été avec nous. Dieu vous bénisse, salut.
Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends.